je vais encadrer le nombre de croisements. Vous voyez que ici, je vais faire deux boucles en faisant cette section. C'est pour ça qu'on passe de 5 à 3. Et n'empêche que vous avez ici une petite famille ou un petit objet dont les trois termes qui sont le nœud trèfle, le plus petit nœud connu, le trois croisements, la chaîne de Whitehead, la plus petite chaîne connue de deux ronds où il n'y a pas d'enlacement, la manière la plus simple de faire tenir deux ronds sans enlacement, et le nœud borroméen de Lacan à trois ronds, qui est le plus petit des nœuds des chaînes borroméennes qui commence à trois ronds avec six croisements. Eh bien, ces trois objets, je peux les identifier. Je peux dire c'est le même objet d'un certain point de vue. Ces trois objets différents, c'est le même objet. Et ce que vous avez dans les feuilles que vous avez distribuées, eh bien, c'est les nœuds de Lacan. Voyez-vous, les un nœud, c'est tous les nœuds de Lacan. Ils leur correspondent deux familles de nœuds de Whitehead, qui sont des développements. Le premier en haut, c'est deux présentations du nœud de Whitehead, parce que parce que ceci s'obtient par une mise en continuité dans les nœuds de la troisième feuille, qui sont les trois chaînes, d'où proviennent tous les nœuds propres par deux sections transverses, et tous les nœuds de Whitehead par une section transverse, d'abord une, et puis une autre, et puis finalement le nœud trèfle, ou le nœud de Lacan. Bon. Ça veut dire que, regardez, je vais vous faire un diagramme. Pour n'importe quel nœud propre, prenons ces trois-là, pour n'importe quel nœud propre, j'écris ça ici, nœud propre, le nœud propre vient de deux mises en continuité dans une chaîne borroméenne, nœud impropre, c'est-à-dire sans enlacement, parmi lesquels il y a le borroméen, mais il n'y a pas que le borroméen, parce qu'il y a les Whitehead qui viennent interférer avec le borroméen. Et si je fais une section transverse ou une autre section transverse, j'obtiens, alors ça, les nœuds impropres à trois croisements, à trois ronds, je les ai entourés d'un rond, à trois ronds, le nœud propre, comme le trèfle, c'est un rond, voyez-vous, et vous avez le poinçon de Lacan. Ce que je suis en train de vous dessiner et de vous proposer d'étudier, c'est un fantasme. C'est la structure du poinçon, c'est la structure du désir. C'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez les Whitehead, et ici, vous avez aussi les Whitehead, il y a un T là, Whitehead, avec les Whitehead. Et ici, cela et ceci, ils sont deux ronds. Ils ont deux ronds. Bon. Vous faites, dans un nœud impropre, comme le borroméen, vous faites une première coupure, vous obtenez un Whitehead, une deuxième coupure, vous obtenez un nœud propre, le trèfle. Mais maintenant, si vous aviez fait la deuxième coupure en premier, vous obtenez aussi une Whitehead. Donc cette coupure, c'est la même que celle-ci. Et cette première coupure, si vous la faites en second, ce diagramme, on engage des catégories, on dit qu'il est commutatif. Vous pouvez faire la première coupure et la deuxième coupure, ou la deuxième coupure et la première coupure, vous obtenez le même résultat. Bon. Et donc, il y a un moyen d'étudier, et c'est assez étonnant, pour étudier les nœuds propres, étudions les nœuds impropres. Voilà ma proposition. Et je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai encore un peu de temps. Je vais vous montrer comment ça marche justement pour le nœud suivant de Lacan. Parce que vous remarquerez que dans mes feuilles, vous n'avez pas le listing. Et ça, je vous expliquerai pourquoi et comment on va le retrouver à un autre endroit. Bon, on commence, ce qui apparaît dans la table des nœuds, si on commence à lire les nœuds avec les méthodes que je mets en œuvre dans ce livre, au cours de tout ce livre, le premier chapitre, c'est un chapitre historique, et le chapitre 2, ça s'appelle la méthode de lecture de l'un nœud. C'est un coloriage. J'ai publié ça dans un article de mathématiques, d'autre part, et il a été repris dans les annales des mathématiques qui sont maintenant tenues par les Américains. Et donc, il y a un commentaire d'un mathématicien italien qui trouve que c'est très bien, mais qui ne voit pas l'intérêt, il ne comprend pas l'intérêt de ces surfaces. Il dit que ça ressemble aux surfaces de Seyfert connues, mais il ne comprend pas. Bon. Parce qu'il faut développer le paradigme pour apprécier cette méthode. Bien. Et cette méthode permet de distinguer justement le nœud de Lacan et les nœuds trèfles parmi parmi les autres nœuds comme le listing. Bon. Donc ça, ça nécessite des coloriages. C'est des choses que les enfants peuvent faire. Hein. Moi, j'ai fait des plans depuis longtemps. C'est pas une expérience. J'ai joué avec mes propres enfants et j'ai fait faire des dessins à des enfants comme à des adultes. Il y a même des psychanalystes qui sont prêtés au jeu. Je me souviens de ce cher Louis Perrier qui aimait beaucoup la bricole. Il collectionnait les jaguars, il aimait beaucoup bricoler. Alors, il aimait l'informatique aussi. Alors, du coup, quand il a vu qu'il fallait faire un petit truc algorithmique, là, il fallait se décerveler pour dessiner, il a dit, bon, ben, alors allons-y. Il m'a montré qu'il savait très très bien colorer les nœuds, comme j'explique comme la manière de le faire. Et une fois qu'il avait coloré les nœuds, il disait, bah, voyez, je sais le faire. Il montrait au copain qui était là, qui avait très peur de Lacan, et qui lui disait, non, je ne peux pas y arriver. Si c'est Macro qui dit ça, ça doit être horrible d'abord, puisque ça fait peur à Belmont, qui est jaloux, et puis que Miller, il a aussi des flux, alors de toute façon, il ne faut absolument pas faire ça. Et donc les gens vous disent, ah non, je ne suis pas capable. C'est comme avec le téléphone, ma grand-mère, elle arrivait à téléphoner, mais elle ne voulait pas éteindre la télévision, parce que c'était trop moderne. La radio, oui, mais la télévision, non. Et par contre, vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui est à la portée d'un enfant de 5 ans. Au moment où il va apprendre à lire et à écrire. Et donc, je vais vous montrer maintenant la même chose que ce que je viens de vous montrer pour le borroméen, le whitehead et le trèfle. Je vais vous le montrer pour le nœud de Lacan. Alors, avant d'effacer, est-ce qu'il y a une question avant que j'efface tout ça? Parce que ça va nous conduire vers le traitement de la psychose. Oui, je peux conclure en disant ça pour ce tableau. Regardez, si la psychose c'est un nœud trèfle, ça veut dire que quelque chose par des sections transverses a été aboli dans la chaîne. Et que la théorie des nœuds propres que je vous propose, c'est une manière de lire qui vous permet de reconstituer la partie du nœud impropre qui a été abolie par la forclusion. La forclusion qui est un geste qui dit plus jamais ça, caduque, hein, obsolète. Vous voyez, aujourd'hui, service compris. On ne doit plus avoir le service à l'appréciation de la clientèle. Ça, parce que les gens sont malhonnêtes. C'est ça, la forclusion. La forclusion, c'est Hitler qui dit les homosexuels, hein, vous voyez, les homosexuels, l'homosexualité dont Freud dit que la psychose parallèle lutte contre l'homosexualité, les homosexuels, on ne les reconnaît pas. Vous voyez, Hitler, il propose qu'on leur mette des triangles jaunes. Non, des triangles roses.
Donc, pour ça, vous les reconnaître.
En fait. Pour les reconnaître. Et puis ensuite, et vous avez les juifs aussi, on ne les reconnaît pas. Les héritiers, le peuple qui a écrit, qui nous a donné la Bible, bien vous voyez, il nous a laissé un message quand même qui est aussi dur, aussi difficile que la stratégie de Lacan, hein, aussi féroce même. C'est que les juifs, hommes, mais pas seulement les religieux militants, femmes, enfants, ils sont voués à la vindicte des autres parce que justement, ce n'est pas écrit sur leur front. Alors, on passe le temps, quand on est paranoïaque, à chercher à savoir qui est qui, hein, et on voudrait que tout soit écrit, vous voyez. Donc, pas de marchandage, on ne veut plus qu'il y ait une possibilité de marchander. Il faut que les étiquettes soient sur les produits dans les magasins, parce qu'on parle comme ça aujourd'hui, c'est des produits. Donc, c'est des produits industriels, il faut que les étiquettes soient posées sur les produits et que le prix soit marqué. Hein. Il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est la psychose, c'est l'obsolète. Et l'obsolète, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caduque? Qu'est-ce qui est forclos? C'est justement ce jeu qu'il y a entre les trois ronds quand ils sont trois. Quand ils deviennent un, il y a quelque chose de plus inerte, de plus rigidifié. Il y a quelque chose qui semblerait être plus rigide et donc plus sécure. Bon, ce n'est pas vrai du tout. De toute façon, même une trêve, vous voyez, déjà, c'est susceptible d'une transformation comme ça. Hein, et on peut le présenter, une trêve, de mille façons. Avec les mouvements d'un master, on peut tordre la ficelle dans tous les sens au point de ne pas reconnaître le trêve. Donc, la question que je pose, c'est comment répondre à la question préliminaire au traitement des psychoses, à tout traitement possible, même des choses psy, pour qu'on en finisse avec ces nouveaux faux curés, c'est des faux curés, oui, qui sont, qu'on appelle des psy, qu'ils soient psychologues, psychiatres, psychanalystes, qu'on en finisse avec cette vague de psychose, de choses psy, qui vire à la folie, puisque ça en ajoute sur le discours du capital et de la science, au point de dire que les sujets n'ont pas besoin d'être responsables, ils n'ont qu'à venir se faire soigner, et ça donne de la réaction thérapeutique négative, hein, c'est-à-dire qu'ils payent pour se punir. Et il n'y a pas d'analyse. Il n'y n'y a pas d'analyse parce qu'on ne leur propose pas de se mettre à la tâche. Donc voilà une proposition qui serait comment rétablir, comment réintroduire, n'est-ce pas, une certaine souplesse névrotico-perverse pour pouvoir étudier sa névrose et sa perversion, son ethnologie personnelle, je dirais, chez des gens qui sont d'une rigidité mentale telle qu'ils ne savent plus lire, ils ne savent plus parler. Pour eux, la seule solution, la seule issue, c'est redevenir un animal, ça c'est névrosé et pervers, ou rester une machine. Il y a une femme qui vient d'écrire un très joli livre sur l'éloge de la corruption, hein, c'est Marie-Laure Susini, d'école Sigmund Freud. Moi je la connais bien, je trouve qu'elle a fait un joli effort dans ce milieu de Focu, dans lequel elle écrit magnifiquement qu'en faisant l'éloge de la corruption, elle dit que les incorruptibles sont des gens d'une rigidité absolue. Peut-être qu'elle sait de quoi elle parle, puisque Marie-Laure est même médecin psychiatre et qu'elle a travaillé dans les hôpitaux psychiatriques où ça parle. On pourrait dire ça comme ça. Hein? Bon, c'est-à-dire que les gens, on les enchaîne. Bon. Il n'y a pas que dans les commissariats ou dans les locaux de service de métro qu'on maltraite des gens. Bon. Donc voilà la question pour nous. Ce serait comment nous mettre à l'école nous-mêmes d'une lecture pour apprendre à lire, pour recomposer, pour recomposer chez nous, pour chacun de nous-mêmes, ce qui serait nous faire sortir de cette psychose paranoïaque. Voyez-vous ? C'est la nouveauté, c'est la nouvelle économie de Lacan dans le symbole. C'est ce que Lacan nous propose comme nouvelle économie. C'est plus tout à fait l'économie du roi Arthur et de Don Quichotte, hein, c'est-à-dire le passage de la parole du roi Arthur avec le chevalier de la table ronde, à l'étape suivante qui était celle de Don Quichotte, c'est-à-dire que, comme le dit Marx, il se trompe de système de production, il se trompe d'économie. Ce serait donc de rentrer dans cette nouvelle économie dans laquelle on pourrait tenter, en se mettant à la tâche, d'essayer, disons, de s'assouplir un peu. Bon. Puisqu'il y a des gens qui aiment les mots croisés, je trouve que c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux effacer ça, ou est-ce qu'il y a encore des contestations ?
Il n'y a pas de contestation, mais c'est sans forclusion.
Oui. Eh bien, le mot forclusion, ça veut dire que c'est caduque, non ? Le dossier est clos et on ne le rouvre pas.
Non, mais c'est caduque pour qui ?
Ah ben, pour celui qui déclare que c'est forclos.
On est bien d'accord, c'est le sujet qui se dit.
Ouais,
oui. Plus jamais ça.
Plus jamais ça. On n'en veut plus. Hein? Plus de sexe, plus de paroles, plus d'équivoques, plus de langues. Aujourd'hui, on en est même là. Hein? Regardez, on essaye de faire disparaître la diversité des langues. Vous avez le problème d'une langue. Regardez l'espagnol dans les deux continents américains. Ils ont inventé CNN en espagnol. Ça veut dire que la diversité des espagnols est en train de s'user, là. Elle est en train de s'éteindre. Mais vous avez la même chose avec l'arabe, vous avez la diversité des langues, même dans une même famille de langues, il y a un effet industriel d'usure. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit qu'en Europe, regardez, en Europe, on est dans la richesse de l'Europe, c'est justement qu'il y a une quantité de langues différentes, qui sont très différentes, et certains rêvent, voudraient nous faire croire que pour des raisons d'utilité pratique, comme si c'était des mamans un peu bêtasses, ils nous disent, oh là là, ce serait mieux quand même qu'il n'y en ait qu'une, et puis que finalement on parle tous en faisant du sémaphore. C'est ça la forclusion. C'est ces gens qui ne. Je ne dis pas que c'est facile la diversité, puisque je pense que le symptôme vient du fait qu'on est mal foutu entre la langue parlée et la langue écrite.
Oui.
C'est difficile.
Mais là, on rentre dans l'évolution dont vous avez parlé.
Oui.
Et oui. Là-bas, au collège.
Oui, oui.
Donc, entre l'involution, donc c'est abandonner la différence pour revenir à l'état d'origine,
oui.
Et la forclusion.
Eh bien, la forclusion, c'est très proche.
Plus jamais ça.
Oui, c'est très proche. C'est très proche du. Il y a une proximité très grande entre la situation du psychotique forclos, hein, et de celui qui croit régresser au trauma, parce que le trauma, c'est un trou. C'est quelque chose comme la forclusion qui va mettre le sujet en prise avec quelque chose de réel. Voyez-vous ? Mais tout ça se joue autour de quoi ? Ça se joue autour de l'écriture mathématique. Mais il y a plusieurs styles d'écriture en mathématiques. C'est ça qu'il faudrait arriver à mettre aussi au point, c'est-à-dire à discuter. Vous voyez, moi je pense, je fais un cours de logique, Et actuellement, on a Ndika, par exemple, qui a publié en 96 un livre formidable, dans lequel il explique les difficultés de l'incomplétude. Et Ndika a fait sauter un verrou imposé par Quine depuis 1950, hein, qui était pas autre chose, pas d'autre logique que la logique canonique classique de Tarski. Une généralisation monadique de la syllogistique d'Aristote. Et Ndika montre que la quantification dans laquelle Quine comptait, n'est-ce pas, nous enfermer, et qui est une quantification qui, soi-disant, était cohérente avec ce qu'il appelle l'ontologie, c'est-à-dire avec l'aspect sémantique de la logique classique, eh bien, Ndika montre que Frege s'est trompé, que grâce au jeu théorétique, grâce aux jeux qui ont servi de sémantique pour les logiques modales, il nous montre que, depuis Frege, on ne veut pas voir que ça ne va pas dans la logique des quantificateurs. Et vous pouvez remarquer que Lacan, justement, les quantificateurs, il les utilise pour les formules de la sexuation, mais en apportant une modification. Et bien, Ndika apporte une modification aussi. Mais je dirais la chose comme ça, pour répondre à votre question. La quantification de Ndika, elle est du côté, elle intéresse les computationnels, les sujets qui s'adonnent au calcul systématique des ordinateurs, intelligence artificielle, cognitive et tout ça, qui d'ailleurs, à mon avis, justement comme le dit Ndika, ont montré avec l'incomplétude le fait qu'ils n'aboutiront jamais à des solutions fondamentales pour le discours. Ce ne sera jamais l'informatique qu'un ramassis d'astuces pour vendre des machines dans le commerce. Dès qu'on rencontre une obstruction, on crée une petite astuce pour la surmonter, mais tout de suite on vient buter sur la suivante. Voyez. Alors que, à l'autre extrémité, ce que je propose de faire comme logique et comme topologie, c'est quelque chose qui est, au contraire de la sophistication de l'objection de Ndika, une objection qui se pose déjà pour les logiciens et les computationnels dès le début. Vous voyez, c'est que de toute façon, les langues ne sont pas états finis, on ne peut pas faire une computation de tous les théorèmes de l'arithmétique, c'est le théorème de Gödel, ça. Et donc, dès le début, il y a quelque chose que la science ne peut pas prendre en compte. Il n'y a pas de science de l'énonciation. Il n'y a pas de science de sexe. Il n'y a pas de sens de phallus. Vous voyez, et ça, ce n'est pas une science. Pourquoi ? Parce que chaque génération a besoin de se réimpliquer, de réinventer sa langue pour pouvoir acquérir la langue et la culture de ses aînés. C'est pas un meurtre que les jeunes sont obligés d'accomplir. Même l'appeler ça un crime, tuer le père, bon. Il y a une question
de
tuer le
père. Selon vous parlez, en fait, oui. je trouve ça lumineux, parce que ça veut dire que c'est dans la transmission, elle se perd. Comme ça, il y a la tradition, la transmission et la modernité.
Oui, il y a nécessairement une invention du sujet.
Oui, c'est dans la transmission qu'elle se fait. C'est voilà. Le sujet recevoir voilà, la transmission voilà. Qui se met
on, mieux. On ne peut pas transmettre le même. On ne peut transmettre voilà, que... Et ce qui se transmet le mieux, c'est les erreurs. Moi, mon expérience de professeur m'a fait bien voir que quand je dis une connerie au tableau, je la retrouve dans toutes les copies. Si au contraire, je fais un cours parfait, ou qui me paraît excellent, eh bien, personne ne comprend. Ça ne se transmet pas. Les bonnes choses, les choses les mieux faites ne se transmettent pas. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous parle comme je vous parle, parce que si je parle très très bien, je suis sûr que je ne vais pas vous traumatiser trop.
Non, mais justement, sur le trauma, vous dites que c'est un truc.
Oui, et qu'il se produit là quelque chose qui vient par la droite infinie, là, les fameuses épiphanies de Joyce, aussi bien que les rayons divins de Schreber, il y a quelque chose qui vient dans le corps, qu'on essaye de tempérer en écoutant la radio dans sa cuisine. Vous voyez, lisez Heidegger là-dessus. L'être et le temps. La femme de ménage qui passe l'aspirateur, elle met la radio. Parce qu'elle s'ennuie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poser son Dasein, dit Heidegger. Bon, il se moque des mathématiques, Heidegger, c'est son erreur. Vous voyez, Lacan, il dit, le Dasein, bouffe-le ton Dasein. Hein. C'est-à-dire, Lacan, il dit, c'est l'objet A, c'est une lettre, comme en mathématiques, et c'est un saint. Bon, c'est un saint.
La voie infinie, donc le trou, le trauma, le trou.
Oui.
Et la radio entendue.
Eh bien, ça crée une intuition dans l'intuition du sujet, comme le dit Kant. Ça n'introduit pas un objet au sens kantien, qui va être conceptualisé par l'entendement. Ça introduit des traits unaires. Ça introduit des choses qui ne sont pas encore des lettres, mais qui sont lisibles. Et le sujet, c'est tellement exceptionnel pour lui et tellement banal pour les autres, qu'il est sidéré, il ne pourra vivre qu'en écrivant cette intuition qu'il a reçu dans le trauma. C'est-à-dire que c'est des Enzigerung, c'est des traits unaires
c'est visible et le sujet est là en train de se dire, mais ça doit pouvoir s'écrire, mais comment ça s'écrit, voilà. Et Lacan, il a poussé l'enquête, disons, de l'écriture du trait unaire pour le transformer en lettre, et il s'est arrêté juste au bord, là, pour nous laisser le temps, plusieurs générations peut-être. Moi, je travaille pour les générations futures, vous savez. Je pense que je n'ai aucun espoir de voir ça se réaliser à notre époque. Très vrai, ça sera sans doute encore pareil. Bon, j'espère simplement qu'on s'emmerde un peu moins dès maintenant, parce que vraiment, hein, sinon, hein, c'est la soupe, et que c'est vraiment un manque de goût. Moi, je crois que c'est un manque de goût esthétique, hein, de ne pas chercher justement à peaufiner ces intuitions que nous avons tous, et qui fait que l'enfant peut le faire, puisqu'il fait des objets transitionnels. Justement, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne peut pas finir une analyse, les scansions, le travail analysant est infini, mais il y a des scansions. Et la résolution par l'écriture, par la construction d'un objet, vous voyez, la construction d'analyse, ce n'est pas l'interprétation dont Foucault nous reproche dans l'analyse de faire comme ça, de restaurer le pouvoir comme ça oraculaire du médecin. Ça, c'est l'idée de l'interprétation, ça a eu son temps, Freud y a cru, et il s'est corrigé là-dessus. Lisez, reminiscence, rémémoration, perlaboration. Freud, c'est quelqu'un qui se trompe tout le temps. Comme nous, comme tous les analysants, mais qui se corrige et qui élabore une écriture à partir du fait qu'il se trompe. C'est le contraire de Sartre. Si vous voulez. Sartre, c'est le type qui se trompe tout le temps et qui s'entête parce qu'il se croit malin. Hein. Il a trouvé un truc dans sa vie, comme tout le monde à peu près. Il a trouvé qu'on pouvait faire un pas de côté et puis se regarder. Hein, vous voyez. Seulement voilà, il est emmerdé quand il est dans les chemins de la liberté. Il est assis au bord du lit, il se regarde l'accueil, il se demande est-ce que je vais me branler ou pas. Et Sartre, il ne peut pas répondre à la question. Parce que dans Sartre, vous n'avez pas cette question de la folie et de la causalité psychique. Quelque chose d'irréductible à la technicité, mais qui n'est pas organique. Bon. Et ça, Freud, c'est génial. Freud, il est médecin, et c'est un lecteur de Dostoïevski, malgré Dostoïevski. C'est un lecteur de Goethe, de Shakespeare. Voyez-vous ? Et Lacan, c'est quelqu'un qui vient en position suivante, et il a juste à apporter des petites touches comme ça, des petites pichenettes pour faire aboutir tout le chemin que Freud a fait. Il a abouti, lui, Freud, il a abouti sur la sexualité féminine. Bon, ça ne plaît pas aux dames, paraîtrait que non, c'est pas possible, un homme, allons, ça doit l'encombrer d'avoir quelque chose comme un organe. Non, mais écoutez, Freud, il a abouti, il s'est posé la question, qu'est-ce que la fille demande à la mère, et il a pu répondre. Mais sur le père, non. Et Freud, et Lacan ajoute, il y a moyen, comme pour le reste, comme pour la castration, qui n'est pas une menace, qui n'est pas un roc, qui est le manque de pénis de la mère, c'est-à-dire le manque dans l'autre, une faille réelle, voyez-vous. Là, je passe du trauma du début à l'issue avec la castration, voyez. Eh bien, Freud, il n'a pas abouti tout à fait, il n'a pas vu que c'était la castration de la mère. Hein. Mais il l'a presque vu dans le texte sur la féminité. Il voit très bien que la mère est un ravage pour la fille. Bon. Seulement le problème, c'est qu'il ne voit pas comment c'est pour le garçon, parce que lui, peut-être, il était le fils préféré de sa mère. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais le fils préféré de ma mère. Et bien, moi, grâce à Lacan, j'ai pu le lire dans les écrits. Signification du phallus, avant-dernière page, en bas de la page, Lacan nous dit que c'est lui qui apporte ce petit élément de plus. C'est pas que le sujet est ou n'est pas le phallus, c'est pas la menace de castration, c'est pas le rôle de la castration. C'est déjà magnifique que Freud soit allé jusque-là, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de faire l'apologie de Freud pour apprécier Freud et lui donner toute sa valeur. Mais Lacan, il a dans cette petite pichenette, hop, c'est la mère ne l'a pas. C'est ça. Elle l'a ou elle ne l'a pas. C'est ça qui est important. Bon. Et le garçon, en général, contrairement à la fille, c'est plutôt tranquille pour lui parce qu'il a pu avoir un peu la trouille quand la vie coupe ou quand la vie mange ou quand la vie morde. Mais n'empêche qu'il l'a et maman est contente. Alors vous voyez, c'est quand même assez tranquille. Bon. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de faire d'autres tours. Lacan disant que les filles, elles ont un autre tour à faire, et que ceux qui parcourent la structure intégralement dans l'involution, c'est les homosexuels mâles. Parce que eux, ils vont réussir l'involution qui va aller jusqu'au terme de la structure, puisqu'ils vont arriver à atteindre cette position où le sexe de la femme leur paraît répugnant, non pas parce qu'il n'y a pas de pénis, mais parce qu'au contraire, ils craignent qu'il y en a un à l'intérieur. Voilà l'involution. Vous voyez, de la castration de la mère à la mère qui serait pourvue du fait d'un pénis caché à l'intérieur et qui serait en plus, hein, il pourrait être un vagin denté comme la reine Victoria, et puis en plus, il pourrait être encore pire, le pénis du père. Vous voyez, Bon. Mais tout ça, c'est des fantasmagories qu'on arrive à lire petit à petit, et grâce à Lacan, et grâce à Freud, et Lacan, il nous propose la chose suivante, il nous dit, voilà, je vous mets tout ça bien noir sur blanc, et comment se fait-il qu'on transforme ça en bruit ? Voilà la question qui nous est posée. Moi, je dis simplement que c'est lisible, qu'on peut savoir de quoi on parle, on peut savoir de quoi on parle, pour commencer à travailler et à ne plus se laisser détourner par des voies de garage, et qu'il y a un travail formidable à accomplir, mais que ma génération ne l'accomplira sans doute pas, peut-être même pas celle de mes enfants, je pense que les générations suivantes, il y aura sûrement des jeunes gens, garçons et filles, qui se passeront de la vie des aînés, ça, c'est comme ça que ça se fait dans toutes les générations, et moi je les encourage à faire ça, c'est-à-dire à ne pas écouter les mauvaises sirènes, hein, à se mettre de la cire dans les oreilles, à s'attacher au mât et d'y aller. Voyez, je pense que la formule de Hegel est magnifique, hein, quand il dit à son correspondant, c'est ce travail qui vous rend malade, reposez-vous, prenez un peu de champ, bon, soyez attentifs, essayez de vous reposer un peu, mais retournez-y, et ce travail qui vous rend malade, c'est lui qui va vous guérir. Voilà ce que les analystes devraient faire savoir dans la cité. C'est un lieu où on s'engage, hein, il n'y a pas d'autre garantie que la garantie que le sujet se choisit pour lui-même, c'est absolument scabreux, c'est absolument pas convaincant, il ne s'agit pas de convaincre quiconque avec ça, on le fait ou on ne le fait pas, et tout le monde peut choisir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut laisser la porte ouverte dans les deux sens, on rentre, et puis si on ne supporte pas, on sort. Mais quand on arrête, qu'on le dise. Parce que moi, ces gens qui prétendent avoir fait une analyse et qui prétendent occuper le terrain, hein, sans s'être donné la peine d'aller voir et qui portent des jugements définitifs sur les choses, qui prétendent se prononcer sans être allé voir, alors ça, je pense que c'est indigne.
Mais ne pas aller voir, ça veut dire qu'on est dans la position du retrait.
Oui.
Et si on est dans la position du retrait, on ne peut pas faire de choix.
Eh bien, justement, mais qu'on le reconnaisse. Qu'on reconnaisse qu'on ne peut pas faire ce choix, mais qu'on le dise. Parce que c'est, ce qui est malhonnête, c'est de prétendre à c'est ce que je vous dis. Ce qui est indigne, c'est de se prétendre, se prononcer, alors qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on a renoncé. Prenez quelqu'un comme Safouan, qui est quelqu'un d'honnête. Safouan, il dit, moi, quand il écrit ça dans l'inconscient et son scribe, il dit, quand Lacan met deux torts enlacés, c'est-à-dire ça, hein, un peu plus gonflé comme des bouées, quand Lacan met deux torts enlacés comme ça au tableau, dit Safouan, eh bien moi je ne peux plus comprendre ce que Lacan raconte. Bon, ça donne un mauvais exemple pour les autres, parce que les autres ils se croient permis de dire chacun, ah bon, ben moi à tel endroit, Lacan déconne parce que je ne peux pas le suivre. Bon, je ne crois pas que ce soit ce que dit Safouan. Safouan a l'honnêteté, voyez-vous, de s'arrêter en 62 et de le dire. Bon, Miller, il dit qu'il s'arrête en 70, dans Radiophonie, il ne comprend plus. Mais il fait ça ensuite, il continue à faire la faux-folle, à vouloir nous faire croire qu'il s'intéresse à ce qui suit. Alors, il faudrait quand même qu'il décide, justement. Vous voyez, il n'est pas capable de décider. Alors qu'il dise qu'il ne peut pas décider, mais qu'il le dise, vous comprenez ? Et qu'il périme pas l'avenir. Voilà. Moi, ce que je trouve indigne, c'est de se prononcer, hein, pour empêcher les autres d'aller voir. Moi, j'oblige personne à y aller. Personne. C'est trop infernal. C'est l'horreur. Mais il faut quand même pas se prendre au sérieux au point d'être à cause du fait que c'est l'horreur, de dire que faut faire la sainte pitouche, vous comprenez. Bon, les dames patronesses, moi, à mon avis, c'est pas du tout leur place à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut pas promettre la vie claire, mais il faut dire que c'est difficile, c'est simple, mais hyper difficile. Et je vous dis, c'est même infernal, c'est l'horreur. Et je pense que la vie de Freud est un exemple intéressant à méditer, puisque ça a été terrible pour lui, beaucoup plus, comme le dit Lacan. Lacan, il joue les flambeurs, là, vous savez, quand il dit, moi, j'ai pas connu ça, là, la science des rêves, 300 exemplaires. Moi, j'ai fait ma thèse en 32, je l'ai vendue avec le François, ensuite, j'ai connu mes écrits. Il a réussi un coup magnifique avec les écrits, Lacan. Bon. Mais vous voyez bien que Freud, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Écoutez, 1900, il écrit La science des rêves, il est là, il nous dit, j'ai trois analysants, j'en ai un qui s'en va en vacances, un qui me quitte, il m'en reste un pour l'été. Il a une famille avec des mots, ça en décourage plus d'un. Allez, j'arrête là. Donc la semaine prochaine, je reprendrai avec le nœud de Lacan pour vous montrer comment ça marche à l'étape suivante. Et petit à petit, on va gagner du terrain. Alors, à la semaine prochaine. Ah. Ah oui, si vous voulez donner une participation pour la location de la salle, donc ces 4 séances, vous pouvez voir Nelly qui est au fond là-bas, vous pouvez lui donner un chèque de l'argent. Et donc, c'est simple, hein, ce n'est pas une obligation de payer quoi que ce soit. Si vous voulez donner une contribution de 40 euros pour les 4 séances, en donnant 10 euros chaque fois, ou en donnant 40 euros, c'est volontiers, et puis vous faites comme vous l'entendez.
Mais s'il vous plaît, ce que vous faites à l'Annette Lacanienne, on peut en être informé comment?
Alors, ça paraît sur le site de l'Annette Lacanienne, ça paraît, hein, n'est-ce pas? Ça paraît, vous pouvez essayer d'écrire aussi.
Non, on
cherche l'Annette Lacanienne. Oui, je crois que c'est plus simple. C'est annoncé là. Hein? Bon. Et puis vous êtes bien vu, parce que je pense que c'est quelque chose d'interne. Moi, je veux dire, bon, je n'ai pas l'impression qu'on ait jamais chassé personne. Ok.
Et s'il vous plaît, combien de coups dans cette salle?
Comment?
Combien il y aura-t-il de coups dans cette
salle? Dans cette salle, 4.
4.
Voilà. Et après, en juin, je reprendrai au collège dans le théâtre.
D'accord.
D'accord.
Donc il en reste 3.
Il en reste 3.